Chapitre 10. À Sicilien, Normand et demi. Martin Dumas dormait donc d'un profond sommeil quand il fut réveillé par un bruit qui, pour tout autre, eût été imperceptible, mais qui, pour ses oreilles, était suffisamment fort. Il écouta sans bouger. Il ne fit pas le moindre mouvement, ne changea en rien sa respiration, n'ouvrit pas les yeux et continua de jouer celui ou celle qui dormait profondément. Plus de doute, on travaillait la porte de sa chambre. On la travaillait doucement, très habilement, et Martin Dumas, qui s'y connaissait, reconnaît là l'ouvrage d'une main experte. Ce qu'il avait entendu, c'était en effet le sifflement rendu par le sifflet une ou deux fois pressé par le haut de la porte que l'on cherchait à ébranler. Mais maintenant, le sifflet se taisait et le haut de la porte bougeait. « Ah, se dit Martin Dumas, mais mon système n'était pas assez solide et ne fonctionne plus. » Il lui restait la ressource du coin qui se trouvait entre le plancher et la porte. Mais à sa grande surprise, la porte s'entr'ouvrit doucement, sans que le coin eût fait la plus faible résistance. Cette fois, Martin Dumas n'y comprit rien. Tout cela se passait dans la nuit absolue. Mais cette anxiété de savoir quelqu'un entrer dans votre chambre, de l'entendre agir, de le sentir tout près de vous, est une sensation extrêmement poignante. Martin Dumas ne bougea toujours pas. L'instrument à musique du haut de la porte s'était tu, et le coin de bois avait glissé. Maintenant, la porte appartenait aux gens qui étaient de l'autre côté, s'ils savaient bien ouvrir la serrure. Martin Dumas, ayant compris que ces gens très habiles avaient découvert ses moyens de garde, qu'ils avaient fait sauter ou avaient coupé son petit joujou à musique, qu'ils avaient fait glisser son coin, se dit qu'il saurait également ouvrir en toute perfection la serrure de sa porte. En effet, il eut la sensation bientôt que la porte roulait tout doucement sur ses gonds sans bruit. Il eut le sentiment que quelqu'un entrait dans sa chambre, refermait la porte derrière lui et faisait un pas vers son lit. Martin Dumas, alors, d'un seul mouvement, avec l'élasticité, la promptitude d'un jaguar qui bondit sur sa proie, ouvrit ses draps et sauta hors du lit. Il tomba sur l'homme qui était dans sa chambre et que, malgré l'obscurité, il avait aperçu. Une lutte terrible s'engagea, ou plutôt Martin Dumas tomba de telle sorte sur cet intrus que, en deux tours de bras, il le clouait au sol. L'homme, à la vérité, n'opposa pas le moindre résistance. Au contraire, il céda immédiatement à l'effort de Martin Dumas. Il s'étendit de tout son long, tout en ayant soin de ramener derrière son dos ses poignets et ses bras, afin que Martin Dumas ne lui eût pas une de ces prises de membres redoutables dont il avait le secret aussi bien que les plus forts lutteurs japonais de jiu-jitsu. Nous savons en effet comment il avait arrangé le compagnon mystérieux du baron Pomperi chez le chevalier Fontis. Peut-être cet homme-là avait-il connaissance de la façon dont Martin Dumas traitait ce qu'il surprenait ainsi, et par prudence, il garantissait ses membres et il restait entre les mains dures et solides comme des étaux de Martin Dumas, tel un mannequin à qui l'on peut faire prendre facilement toutes les positions, toutes les inclinaisons possibles. Cet homme semblait vraiment en caoutchouc. Martin Dumas, quelque peu surpris, lui avait tranquillement posé sa large main sur le cou. Il tenait un genou dans le creux de l'estomac, un genou sur le bras, et l'autre main tenait l'autre bras de son prisonnier. Il y eut un moment d'angoisse. Mais celui que Martin Dumas tenait ainsi se mit à rire. dit-il en anglais à Martin Dumas, dans un anglais prononcé avec l'accent italien très accusé. Et là, Miss Arabella, rassurez-vous, je n'en veux pas vos charmes. Je suis assez gentleman pour respecter la pudeur anglaise. Oh, je vous en prie, défaites un peu la main qui me tient la gorge. Soulevez un peu le genou qui presse sur mon estomac. Quand vous êtes trop forte, eh bien que j'ai paré votre prise, je sens que vous me faites mal. Martin Dumas, surpris, défit un peu son étreinte afin de laisser respirer l'homme qui commençait à étouffer et lui dit: Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? L'homme répondit: Ben, je viens vous rendre une petite visite. Je vous demande pardon d'être déjà venu de cette façon chez vous sans me faire annoncer. Martin Dumas, qui avait l'habitude des cambrioleurs facétieux, ces malfaiteurs qui ont parfois l'esprit des menottes, ainsi qu'il le disait, qu'il plaisantait au moment de leur arrestation, fut cependant surpris d'entendre cet homme lui répondre avec cette bonne humeur, avec ce calme et avec cette prudence. Néanmoins, il dit: Ben, vous veniez voler, cambrioler Miss Annabella. L'autre, riant de plus belle, lui dit: Mais non, monsieur Dumas, c'est vous que je viens voir et non Miss Arabella. Je ne serais jamais permis d'entrer ainsi de nuit sans avoir été d'abord officiellement présenté dans la chambre d'une dame anglaise. Et il ajouta: Maintenant que vous vous doutez à peu près que vous avez affaire non pas à un X, mais à quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous suit, qui vous apprécie et qui vient se mettre à votre service, je vous en prie, lâchez-moi tout à fait. Laissez-moi respirer afin que nous puissions causer en toute tranquillité. Martin Dumas desserra encore son étreinte et permit à cet homme, qu'il tenait malgré cela en son pouvoir, de passer la main dans sa ceinture et de presser sur un bouton qui se trouvait auprès de la poche à montre. Aussitôt, une petite lueur brilla sur la poitrine de l'homme à terre. Il venait d'allumer une mignonne ampoule électrique. Martin Dumas se mit à rire aussi. Les deux hommes se regardèrent, éclairés par cette faible lueur, et finalement Martin Dumas défit son étreinte et s'assit sur le plancher à côté de son prisonnier, qui avait pu se soulever et demeurait ainsi. Mais qui êtes-vous? Demanda Martin Dumas. L'individu, à la petite lueur électrique, tendit les mains à Martin Dumas et dit: Comment allez-vous, chef? Martin Dumas regardait son interlocuteur sans le reconnaître. Et celui-ci, toujours souriant, lui dit alors: Je suis Mattei, inspecteur de la sûreté italienne, qui a eu l'honneur d'aller faire auprès de vous pendant quelques mois des études. Me reconnaissez-vous maintenant? Martin Dumas serra alors les mains de Mattei et lui dit: Ah oui, maintenant je vous reconnais. Alors nous pouvons causer tranquillement, car nous avons besoin de parler très sérieusement. Il ajouta: Je vous demande pardon, chef, de m'être introduit de cette façon chez vous, mais je ne pouvais faire autrement. Et pour que je l'aie fait, il faut que cela soit nécessaire. D'ailleurs, moi qui suis votre élève et qui me fait gloire d'avoir suivi vos leçons, je vous demande un compliment. Je suis entré chez Martin Dumas, mon maître, qui avait pris toutes les précautions pour ne pas me laisser pénétrer chez lui. Oui, c'est vrai. Je suis entré chez lui, en somme, et s'il me suis laissé prendre, c'est parce que je venais pour cela. J'avais eu d'ailleurs le soin de vous avertir pendant 2 jours que quelqu'un viendrait vous voir. Martin Dumas, à son tour, se mit à sourire et répondit: Oh, je vous attendais donc, et il est fort heureux que je ne vous ai pas reçu d'une façon plus rude. Mattei ajouta: Cependant, chef, vous n'allez pas rester ainsi par terre, Prenez la peine de vous recoucher pour ne pas vous refroidir. Les nuits de Sicile sont froides. Et bien que vous soyez habitué au brouillard de la Tamise, la brume de Sicile vous serait pernicieuse. Je vais, moi, tranquillement, tout bonnement, prendre une chaise à côté de votre lit et nous pourrons causer à voix basse. Mais comme vous voudrez. Je me recouche car vraiment s'asseoir ainsi sur les dalles de cette chambre, c'est pas une façon commode de recevoir un ami, et il est impossible sur ces briques glacées de continuer une conversation sans éternuer à tout bout de champ. Martin Huma n'alluma pas de lumière. Il était inutile de faire voir au dehors que l'Anglaise, contre son habitude, veillait ce soir-là. Mais Martin Huma, dans le lit et Matéi sur une chaise à côté, commencèrent l'entretien. « Chef, dit Matéi, laissez-moi cet honneur de vous appeler ainsi et de me considérer toujours comme votre élève, votre disciple. J'en suis flatté et très heureux et je dois dès maintenant vous faire compliment sur la façon dont vous vous êtes introduit chez moi. » Matéi demanda alors des nouvelles de ses amis Prosper et Philippe, qui seraient très heureux de revoir. Puis il expliqua le but de sa visite. Il dit à Martin Huma qu'il faisait partie de la sûreté italienne et que ce service était à la poursuite d'une bande de malfaiteurs qui avait pour emblème et signe de ralliement l'X. Martin Huma demanda comment il se faisait qu'il avait pu deviner qui se cachait sous le déguisement de l'Anglaise. Et Matéi répondit qu'on avait suivi, sans qu'il s'en doutât, Martin Huma depuis son départ de Paris et qu'il lui avait été facile, en ayant reconnu Pippo, l'agent de Martin Huma, et même Tony, de deviner qui se trouvait sous la perruque frisée de Miss Arabella. Et Matéi ajouta « Je suis venu, chef, pour vous dire que vous perdez votre temps et que vous êtes engagé sur une très mauvaise piste. »« Mais à quel sujet ?» demanda Martin Huma. « L'enfant de la Margellina ne se trouve pas à la ferme de San Tito. » Il y était, oh, c'est bien lui, en effet, qu'on a photographié sur la carte postale avec le petit mouton. Mais les X, se doutant que Martin Huma était assez malin pour retrouver cet enfant, pour l'arracher, pour l'enlever, le mettre en lieu sûr et permettre à la Margellina de dire le secret, ont pris les devants. Ils ont enlevé l'enfant qui est maintenant en lieu sûr. Et ils en ont mis à la place un autre que certainement ne reconnaîtra pas la Margellina. De sorte que, si vous enlevez cet enfant, vous aurez fait pour rien, inutilement, le voyage en Sicile. Et les X se moqueront encore une fois de plus de Martin Huma. Voilà ce que je suis venu vous dire, car je dois en outre vous apprendre que Tommaso et toute la famille de la ferme de Santido appartiennent aux X. Matéi ajouta vivement, « Oh, ils ne sont pas les seuls qui soient des X. Il en est d'autres aussi habiles, aussi courageux et aussi forts que Martin Huma, que tous ces agents. Et parmi ceux-ci, je vous prie de compter sur votre ancien élève, Matéi. En voici la preuve. » Ce disant, Matéi s'était levé. Il donna un coup de poignard à Martin Huma. Mais le poignard de Matéi, au lieu de rencontrer le corps de Martin Huma, couché dans les draps, s'enfonça simplement dans l'oreiller que tendait Martin Huma. Le détective, depuis un moment, malgré la nuit, avait, sinon vu, du moins deviné, ce que préparait Matéi, avait pressenti le coup de poignard et avait pris ses dispositions pour le parer. Et il y avait réussi. Le bras de Matéi, sensé avec force, s'enfonça dans cet oreiller, tenu des deux bouts par Martin Huma, et l'oreiller se referma sur ce bras. Les mains de Mathéi et Martin Dumas s'emparèrent du bras du misérable. Il y eut un craquement d'os. Martin Dumas, en même temps, passa sa jambe autour du cou du bandit. Puis il lâcha le bras brisé, pesa de toutes ses forces sur Mathéi, tomba avec lui sur les dalles. Et en lui serrant la nuque, un bras sur la gorge, l'autre poussant le crâne, un genou dans le dos, il lui cassa net la colonne vertébrale. Mathéi ne put même pas pousser un cri, c'est à peine s'il exhala un râle, il était mort. Martin Dumas le tint ainsi jusqu'au moment où il sentit vraiment que la mort avait fait son œuvre. Alors il dégagea le cadavre de l'étreinte dans laquelle il le tenait et dit tranquillement « Bon, les Siciliens sont les descendants des Bretons et des Normands, mais un Sicilien très malin, Normand et demi, plus malin encore. » Alors, très calme, il alluma la lampe et il regarda le corps de Mathéi étendu sur les dalles. Puis il se baissa, s'agenouilla devant, et se mit à le fouiller consciencieusement. Il trouva divers papiers qu'il mit de côté avec le poignard, un revolver, un petit accumulateur électrique pour la lampe, divers instruments de cambriole. Sous le gilet de Mathéi se trouvait une cotte de maille en acier très fin, à l'épreuve sinon d'une balle, du moins d'un coup de couteau. Mais alors Martin Dumas, par curiosité, prit le bras qu'il avait cassé afin de constater comment s'était opérée la fracture et faire une étude sur ce genre de blessure. Et comme il tenait la main, il tressaillit. Il regarda cette main et poussa un cri de surprise. « Voilà, dit-il, voilà le secret tant cherché. Voilà l'explication de ce qui m'a donné tant de peine. » Voilà enfin la confirmation de ce que j'ai toujours pressenti. La bonite vernie, je la connaissais, mais l'empreinte sanglante de la main me déconcertait. L'empreinte trouvée chez le banquier Castagnier, l'empreinte trouvée chez la Margellina, l'empreinte trouvée chez le chevalier Fontis. Ces empreintes étaient toutes les mêmes et semblaient toutes faites par la même main, par le même individu. Or, ces empreintes étaient faites par différentes personnes. À l'examen, ces empreintes offraient un caractère bizarre de voir des lignes aristocratiques et d'être fortement tracées comme des mains de manants, d'ouvriers. Les traits étaient longs, mais durs et grossiers. Et voilà la raison, voilà le secret de ces marques du pouce. Le secret du pouce qui intrigua tant de monde. Ces gens, pour ne pas être reconnus, pour égarer la justice, en laissant partout des empreintes toujours les mêmes, cependant faites par des individus divers, ces gens portaient une main en caoutchouc, une main moulée qui revêt la main naturelle comme un gant et permet à de nombreux malfaiteurs de laisser en plusieurs lieux la même empreinte. Alors il appela, en tapant doucement au mur, son valet de chambre Tommy, et lui montrant le cadavre, lui dit « Encore un des X qui aurait demain laissé ici une empreinte sanglante, semblable à toutes les autres, qui aurait fait ici la marque du pouce, tracée avec le sang de Martin Dumas. Mais cet homme est mort, » Martin Dumas ajouta. Et cependant, ce fait d'être entré chez moi me dit qu'il est inutile de continuer à me déguiser et à jouer cette comédie de pantomime anglaise. Nous n'avons plus à nous attarder, plus à perdre de temps. Oh, le chevalier Fontis va être heureux, car dès maintenant, nous allons pouvoir travailler à visage découvert. Nous sommes les maîtres, car je tiens le secret du pouce. » Le lendemain, Martin Dumas, qui n'avait pas cru un seul mot de ce que Mathéi lui disait, qui avait vu que les fermiers de San Tito, ou les parents de Tommaso, étaient de braves gens et de loyauté absolue, qui gardait cette conviction qu'il n'avait aucune attache avec la fameuse bande des X, Martin Dumas, revêtant encore pour cette matinée son travestissement d'anglaise, de bonne heure avec Pipo, se dirigeait vers la ferme de San Tito. Dans la voiture, cette fois, se trouvait un paquet lourd que Tommy descendit de l'hôtel avec précaution. Pour aller à la ferme, il fallait côtoyer une sorte de vallon, un ravin assez profond. Arrivé devant ce ravin, la carriole de Pipo s'arrêta. Pipo et Tony tirèrent le paquet de la carriole. Martin Dumas épingla sa carte de visite, traça sur sa carte au crayon un X et l'on envoya le tout rouler dans le ravin. Ce furent les funérailles de Mattei. Le lendemain, un bateau ramenait en France Martin Dumas, redevenu Martin Dumas, le chevalier Fontis, Tony et Pipo. Sur les genoux de Martin Dumas se trouvait un bambin riant aux éclats et tenant en main une ficelle au bout de laquelle se trouvait le fameux mouton blanc. Le chevalier Fontis rayonnait et Martin Dumas fumait enfin la sempiternelle cigarette dont l'anglaise avait dû se priver. À l'arrivée du bateau à Marseille, deux jeunes femmes montèrent sur le pont, accompagnées par un vieillard et cinq hommes. Les hommes étaient des agents de Martin Dumas qui surveillaient la Margellina, Ginetta et le vieux Pietro. Quelle joie, quel bonheur! Et comme les cœurs battirent quand le chevalier serra sur sa poitrine la douce Ginetta, quand le vieux Pietro embrassa les mains de son maître, et quand la Margellina, comme ivre de tendresse maternelle, couvrit de baisers son enfant. Martin Dumas regardait ce tableau avec des yeux attendris. J'étais là, moi aussi, naturellement. Pour la première fois, je vis Martin Dumas ému, et essayant de cacher son trouble derrière la fumée de sa cigarette. Quand la Margellina se vit au milieu de ses amis, bien en sûreté, bien gardée et tenant dans ses bras son enfant, elle consentit à dire le secret qu'on avait cloué sur ses lèvres. « Celui que j'aime, dit-elle, celui qui est le père de cet enfant, est le marquis Piaimo di Carmine Santucci, le seul, le vrai. » Et quand j'ai appris en Amérique que le marquis allait se marier, après m'avoir si odieusement abandonné, je suis venu en France pour voir le marquis. J'ai voulu lui parler et lui faire des reproches que méritait sa trahison. Après bien des démarches, de longues heures d'attente, bien des rebuffades, j'ai fini par me trouver à l'improviste en face du marquis di Carmine Santucci. Or, dans ce marquis, je n'ai pas reconnu mon primo adoré. Le lendemain, messieurs, vous me trouviez mourante à un coup de poignard à la poitrine, près de ce cœur qui aime tant le marquis primo. Mais alors, dit Martin Dumas, si le prétendu marquis n'est pas un Carmine Santucci, c'est un imposteur. Non, pardon, messieurs, pardon, c'est aussi un Carmine Santucci. Alors dans ce cas, comme le disait le malheureux comte di Villa Cervoli, il est double. Double, fit la Margellina, double. Ah, je comprends ce que vous voulez dire par ce mot double. Oui, écoutez, le père de mon primo, le vieux marquis, avait eu d'une liaison avec une femme du peuple deux enfants, une fille et un fils, qui ressemblaient à son frère, au fils légitime, au point qu'on les confondait. Ils pouvaient, comme on disait, paraître le même. Voilà ce que veut dire le mot double, fit Martin Dumas. Et voilà aussi, mon cher Courville, l'explication de ce qui nous étonne à tant lorsque je veux faire devant vous l'étude des empreintes de la main de l'assassin et de celle du marquis. Je vous ai dit que les lignes du pouce du marquis, fines mais courtes et dures, dénotaient une main demi-aristocratique, un mélange de deux races, un bâtard. Mon cher ami, encore une fois, je rends hommage à votre merveilleuse perspicacité. La Margelina reprit. Les enfants naturels du marquis étaient terribles et propres à tous les crimes. Le père dut les éloigner de la Sicile. Et eux, cependant, n'avaient qu'un désir, tuer ce fils légitime pour faire valoir leur droit à la succession, pour devenir enfin, eux, les seuls Carmine Santucci. Et si le vrai marquis est mort, c'est son frère qui l'a assassiné. Quant à la sœur de ce misérable, sa complice, plus terrible, plus cruelle que lui, mais c'est celle que vous appelez la belle Elvira Focamore.